le Royaume-Uni est sous le choc. Des voitures brûlées, des magasins pillés, des vitrines cassées, une foule a même pris d'assaut un hôtel. Dans plusieurs villes, tout à travers le Royaume-Uni, de violentes manifestations ont secoué la nation. Pourquoi ? Que se passe-t-il au Royaume-Uni ? Découvrons la réponse aujourd'hui sur Trumpet World. La migration est l'une des questions les plus controversées dans le monde en ce moment. Actuellement, plusieurs pays font face à des difficultés. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le Royaume-Uni, mais aussi sur le Canada et l'Allemagne. Vous avez peut-être entendu parler des violences de l'extrême droite qui se déroulent au Royaume-Uni. Il y a certainement eu certains cas où ces manifestants ont enfreint la loi et commis des actes de violence. Mais en même temps, ce n'est pas toute l'histoire. Pourquoi ? Eh bien, il faut se demander quels sujets ont fait la une depuis que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir le 4 juillet. Il s'agit de questions liées à l'immigration et à la violence commise par des minorités. Le 18 juillet, il y avait une émeute à Leeds où des Roms ont incendié un bus et une voiture de police après que les forces de l'ordre ont essayé de prendre en charge 3 enfants victimes de négligence. Et le 23 juillet, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, sur laquelle on voit un policier donnant un coup de pied à la tête d'un musulman. Par la suite, une foule a encerclé un poste de police à Rochdale en criant « Allahu Akbar ». Mais plus tard, la vidéo complète a révélé qu'en fait, cet homme musulman s'en est pris à la police en premier. Et il avait même cassé le nez d'une policière. Le même jour, un lieutenant-colonel britannique a été poignardé près de sa caserne dans le Kent. L'homme qui a tenté de l'assassiner serait né au Nigeria. Et enfin, l'histoire qui a reçu la plus d'attention, le 29 juillet, un homme né aux immigrés rwandais a tué 3 enfants et en a blessé 8 autres lors d'une série de coups de couteau dans un cours de danse à Southport, près de Liverpool, où se déroulaient des activités pour des enfants âgés de 6 à 11 ans. Le jeune homme de 17 ans est arrivé sur les lieux et a tout simplement commencé à tuer. Il s'agit bien sûr d'un événement extrêmement bouleversant qui a donné lieu à des manifestations, des émeutes et des affrontements ethniques. Alors, dimanche, à Rotherham, des émeutiers se sont rassemblés devant un hôtel qui servait à héberger des migrants. Certains ont brisé des vitres, d'autres ont tenté de mettre feu à l'hôtel. À Liverpool, une vidéo montre des émeutiers bousculant un policier à moto, pillant une supérette et mettant le feu à une bibliothèque. À Hull, ils ont crevé les pneus d'un concessionnaire automobile parce que le propriétaire était kurde. À Stoke-on-Trent, des manifestants et des musulmans se sont affrontés à l'extérieur d'une mosquée. Bon nombre des organisateurs de ces manifestations ont déclaré qu'ils avaient l'intention de rester pacifiques. Par exemple, l'organisateur d'une manif qui a eu lieu à Middlesbrough a en fait déclaré à la foule « Restons calmes aujourd'hui, défendons notre pays ». Il a dit qu'il ne s'agissait pas de race, de la couleur de peau ou de religion. Ce ne sont pas des sentiments de l'extrême droite. Mais il y a quand même eu des violences. Un groupe a attaqué des voitures et des maisons dans un quartier de migrants. Et les immigrés, pour la plupart des musulmans originaires du Pakistan, ont réagi en attaquant au hasard tous les blancs qu'ils croisaient dans le centre-ville. En Irlande du Nord, ces manifestants ont en fait uni les gens. Les manifestations ont réussi à unir les catholiques et les protestants contre l'immigration de masse. Avec toutes ces manifs, le nombre de manifestants se compte en centaines. Liverpool a vu la manif la plus grande, soit environ 1500 manifestants. Voilà donc la situation actuelle. Il y a certainement des manifestations qui comprennent des actes de violence. Mais la façon dont les médias parlent de ces manifs pose plusieurs problèmes importants. Tout d'abord, ces médias font le tri. Selon eux, selon la police et même selon le Premier ministre, il s'agirait de voyous d'extrême droite. Souvent, les mêmes chaînes qui propagent ce récit nous révèlent en même temps que c'est faux. En voici un exemple. C'est une vidéo de Sky News. On parle de dangereux émeutiers et on les taxe d'extrême droite, tandis que des musulmans armés de machettes marchent juste derrière. Regardez.
Puis il y a eu cet affrontement entre les manifestants et la police. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont enfuis à travers le parc. Un grand groupe s'est enfui à la recherche d'ennuis, nous semble-t-il. Nous allons donc nous éloigner de ce groupe qui se trouve derrière nous. Mais il y a beaucoup de désordre ici.
Voici une autre séquence, également de Sky News. Les journalistes essayant de faire un reportage sur ces émeutes qui seraient d'extrême droite. Mais quelqu'un qui n'est manifestement pas d'extrême droite s'approche et se met à crier de manière menaçante « Libérez Palestine !»
Mes excuses pour la vulgarité, mais la colère est très évidente.
Et plus tard, ces mêmes journalistes qui couvraient la même manifestation étaient dans leur voiture alors que le même genre de personnes essayaient de taillader les pneus avec des machettes et des couteaux. À Birmingham, des foules musulmanes ont attaqué un pub, mais les médias n'en ont pas trop parlé. Ou bien, même lorsque ce genre de choses fait l'objet d'une couverture médiatique, c'est de manière très trompeuse. En ce qui concerne la violence à Birmingham, la BBC a titré « Des voitures et un pub endommagé à Birmingham », sans mentionner l'identité des agresseurs dans ce cas. En fait, dans tout l'article, cela n'a mentionné nulle part que les auteurs des faits étaient des hommes musulmans. Au même moment, le conseil municipal de Birmingham a publié une déclaration condamnant, je cite, « la violence islamophobe et raciste de la part de l'extrême droite ». Ils ont publié cette déclaration alors même que des foules musulmanes s'en prennent aux Blancs à Birmingham ce soir-là. Les médias et le gouvernement travaillent donc ensemble pour déformer les faits. Il existe bien sûr des cas où l'extrême droite fait des violences et il faut évidemment condamner cela. Sur certaines vidéos, j'ai vu de gens en train de piller un magasin et ils étaient des Anglais blancs. On peut facilement voir qui ils sont et entendre leur accent. Ce ne sont pas des immigrés et il n'y a aucune excuse pour saccager un commerce. Soit dit en passant, l'un des magasins que j'ai vu était, je crois, un magasin de cosmétiques. Quel genre de voyou d'extrême droite pille un magasin de cosmétiques, comme si les skinheads aiment les produits de beauté. Ils n'ont évidemment pas besoin d'acheter du shampoing. C'est donc assez bizarre. Bien sûr, il va sans dire que personne ne devrait brûler des bibliothèques, des hôtels avec des migrants à l'intérieur, toutes ces choses que nous avons vues. Mais encore une fois, ce n'est pas toute l'histoire. On a mis l'accent sur la violence de la droite. En même temps, les violences commises par les migrants et certaines communautés musulmanes ont été ignorées, parfois attribuées à l'extrême droite ou tout simplement occultées. Alors, si l'on dit que toute cette violence est la faute de l'extrême droite, tout en ignorant ce que font les musulmans et certaines autres minorités, c'est un mensonge. On dira que ce n'est qu'une minorité de musulmans qui sont violents, et là je suis absolument d'accord. Mais en même temps, ceux qui font des émeutes et incendient des quartiers pour protester l'immigration sont également une minorité. Une perspective équilibrée manque entièrement de ce débat, et il n'y a rien de bon à dissimuler la vérité. Le gouvernement et les médias mentent également parce qu'ils ne veulent pas parler de la crise de l'immigration. Ils ne veulent pas parler du contexte que j'ai présenté au début de l'émission. Regardez ce qui arrive à un ancien policier de haut rang qui tente d'évoquer ce contexte dans une interview accordée à la BBC.
They're taking the brick back. What I'm saying is, you cannot, you have to be very careful now with tempers the way they are and people's sense of angst of what had gone on in the preceding couple of days where you'd had an army officer stabbed in the back, the misleading representation in the northwest where this occurred.
That's a different case there, Kevin, so we'll leave it there. That's Kevin Hurley.
They're not. You're missing the point. All of you are missing the point. People conflate this. And they make
we're worsening that conflation by mentioning the two cases together here. So we'll leave it there. Thank you. Kevin Hurley.
Voilà la réaction habituelle. Non, nous ne pouvons pas parler de ça. Et quel est le plus gros problème que nous avons vu au Royaume-Uni ces dernières semaines? S'agit-il de quelques centaines de personnes qui se rassemblent et mettent le feu à des voitures et à des commerces? C'est bien sûr intolérable et ils ne devraient pas le faire. Le vrai problème, n'est-ce pas ce fils d'un migrant qui a assassiné trois fillettes? Jusqu'ici, personne n'a été tué dans ces émeutes et manifestations. Je suis plus inquiet à l'idée que quelqu'un se présente à un cours de danse et assassine des enfants. Mais nous ne parlons pas de nous attaquer à ce problème. Actuellement, seules les émeutes sont considérées comme un problème. N'oubliez pas qu'en matière d'intégration et d'immigration, les choses ne vont pas pendant des années déjà. Rotterdam a été le centre de quelques-unes de ces manifestations depuis des années. Des musulmans pakistanais ont systématiquement violé 1400 filles, voire beaucoup plus. Je pense que c'était le chiffre le plus conservateur. et les autorités ont travaillé ensemble pour étouffer l'affaire. Même maintenant que cette histoire a été révélée et qu'un grand nombre des auteurs ont été arrêtés et jugés, ils n'ont pas été expulsés. Ils sont de retour dans ces mêmes communautés. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni au cours des dernières décennies. Il y a eu les attentats du 7 juillet qui ont fait 52 morts en 2005. Il y a eu l'attentat contre un concert à Manchester en 2017 qui a tué 22 personnes et en a blessé plus d'un millier. 8 personnes ont été assassinées lors de l'attentat du pont de Londres qui s'est produit plus tard dans l'année. Il y a quelques années, lors du Covid, un enseignant a été contraint de se cacher pour sauver sa vie après avoir montré une image de Mahomet lors d'un cours sur les limites de la liberté d'expression. L'année dernière encore, un garçon autiste qui avait laissé tomber un exemplaire du Coran a reçu des menaces de mort et a été harcelé. Lors de chaque élection, depuis au moins le premier gouvernement conservateur vers 2010, le Royaume-Uni a voté pour un parti politique qui avait promis de réduire l'immigration. À chaque élection, le parti vainqueur n'a pas tenu ses promesses. Quiconque souligne ce genre d'histoire aujourd'hui, ce genre de contexte, est qualifié d'extrémiste. Mais ce n'est pas être extrémiste que de souligner qu'un gouvernement, qui ignore régulièrement la volonté du peuple et qui permet à certains de ses propres citoyens d'être tués de cette manière sans rien faire, risque de faire face à une explosion de colère. Si les gens ne parviennent plus à changer le cap du pays par les urnes, ils trouveront d'autres moyens. Mais les autorités ne s'attaquent pas à ces problèmes. Elles préfèrent faire comme s'ils n'existaient pas. Pensez à la réponse du Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, face à ces émeutes et à d'autres manifestations similaires. Très peu ont été arrêtés lors des nombreuses manifestations pro-palestiniennes et pro-Hamas, qui ont mis en danger les Juifs de Londres et les ont amenés à craindre de se rendre dans la capitale. À l'époque, Sir Keir n'a pas tenu de discours similaire. Il n'était pas Premier ministre, mais il aurait certainement pu s'exprimer avec plus de force dans ses discours publics. Lorsque les manifestations de Black Lives Matter ont fait 27 blessés parmi les policiers britanniques. Keir Starmer n'a donc pas tenu les mêmes propos que cette fois-ci.
Our police deserve our support as they tackle any and all violent disorder that flares up. Whatever the apparent cause or motivation, we make no distinction. Crime is crime and this government will tackle it.
Au lieu de cela, ce que nous voyons lors de ces manifestations, c'est que les autorités les considèrent comme une excuse pour réprimer la liberté d'expression et modifier profondément la société britannique. Je le souligne encore, ces manifestations ont été assez spectaculaires, mais il n'y avait quand même pas beaucoup de manifestants. 1500 personnes ont participé à la plus grande manifestation, qui s'est tenue à Liverpool. Le gouvernement promet quand même des changements énormes. Voici ce que Sir Keir Starmer a déclaré le 1er août.
These thugs are mobile. They move from community to community. And we must have a policing response that can do the same. Shared intelligence, wider deployment of facial recognition technology and preventative action, criminal behavior orders to restrict their movements.
Il a également promis de s'en prendre aux réseaux sociaux.
And let me also say to large social media companies and those who run them. Violent disorder clearly whipped up online, that is also a crime. It's happening on your premises and the law must be upheld everywhere. That is the single most important duty of government. Service rests on security and we will take all necessary action.
Il n'est jamais justifié d'attaquer une bibliothèque, une supérette ou même un magasin de cosmétiques. Respecter l'état de droit est essentiel pour tout pays. Mais dans le sillage de ces manifestations, on voit une certaine pression pour diaboliser tous qui sont préoccupés par l'immigration en les taxant d'extrême droite. Ces quelques actes illégaux, commis par un petit nombre de gens, pourraient servir de base pour justifier l'interdiction d'une certaine philosophie. Bien sûr qu'il y avait des cas de violence, mais il est clair que la grande majorité des Anglais préoccupés par l'immigration ne sont pas d'extrême droite. Ils ne sont pas en train de brûler des bibliothèques. Mais ils risquent quand même de se voir réduits au silence. Ces derniers jours, cette histoire tourne autour de Twitter et d'Elon Musk. Plusieurs responsables du gouvernement s'en sont pris directement à Elon Musk.
I think Elon Musk's comments were totally unjustifiable. Everyone who has a platform like he does on social media should be acting responsibly. We've seen police officers seriously injured. We've seen buildings set alight. Everyone, absolutely everyone, should be calling for calm in this situation. And so I do think that his comments are irresponsible. And as the Prime Minister's spokesperson said yesterday, totally unjustifiable.
Ces manifestations ont largement été attribuées à, je cite, « des informations erronées diffusées sur Twitter ». Il y a en effet un petit grain de vérité en cela, qui a quand même été énormément exagéré. Une rumeur a circulé sur Twitter selon laquelle l'agresseur qui a tué ses trois fillettes serait un musulman arrivé illégalement au Royaume-Uni à bord d'une petite embarcation de fortune qui aurait traversé la Manche. Mais je ne pense pas que cette rumeur se soit trop répandue avant que la vérité ne soit révélée. En tout cas, au moment où je me suis penché sur l'histoire, il était déjà clair que c'était faux. Mais ces désinformations seraient en fait dues à la censure des grands médias. Pendant des jours après l'attentat, tout ce que les grands médias disaient sur l'agresseur était qu'il s'agissait d'un Britannique né à Cardiff. Même aujourd'hui, il est difficile de trouver des informations sur cet agresseur, à moins de savoir qu'il s'appelait Axel Mungangwa Rudakabana. Si vous connaissez son nom, vous pouvez faire des recherches. Mais beaucoup d'articles de presse se contentaient de dire qu'il s'agissait d'un jeune homme de 17 ans, né au pays de Galles. Ils omettent de mentionner que ses parents étaient des immigrés du Rwanda. Ainsi, des faits essentiels à notre compréhension de la situation sont omis dans la couverture médiatique. Pas surprenant alors que les gens se tournent vers d'autres sources d'informations. Et si les organisations qui disposent des ressources nécessaires pour rendre compte, avec précision, et vérifier les informations mentent au public, vous allez obliger les gens à se tourner vers des sources moins fiables, et il y aura des erreurs. Si vous voulez résoudre ce problème de désinformation, il faut s'attaquer aux grands médias, pas à Twitter. En réalité, si les autorités s'en prennent à Twitter, ce n'est pas à cause de la désinformation, c'est parce que Twitter échappe à leur emprise. Ils préféreraient que le nom de cet agresseur ne soit jamais connu et que les gens ne connaissent pas son origine. Considérez cet homme, qui serait originaire du Nigeria, qui a poignardé un soldat britannique. Je ne suis même pas sûr qu'il soit originaire du Nigeria, car pas un seul média britannique ne l'a mentionné. Au lieu de cela, ce sont les médias nigérians qui l'ont dit. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a au moins quelques médias nigérians qui en ont parlé. Les sources d'information africaines n'ont généralement pas les mêmes ressources que les sources d'information occidentales. Je suis donc un peu réticent à leur faire confiance. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas trouver ces informations sur Google en raison de la censure. Les autorités ne veulent ou pas que ces infos soient diffusées. Par conséquent, les gens ne font plus confiance au gouvernement et aux médias. Ils font confiance à ce qu'ils voient sur Twitter. Et le gouvernement veut faire taire cela. Il veut contrôler le récit, contrôler la vérité. Cette semaine, la journaliste anglaise Melanie Phillips a écrit « Les gens sont de plus en plus nombreux à remettre en question l'idée que les autorités leur disent la vérité. C'est parce qu'il y a un tel fossé entre ce que les gens voient de leurs propres yeux et ce qu'on leur dit, entre ce qu'on leur dit et ce qu'on fait réellement. Ces émeutes sont donc en partie une réaction à la difficulté d'obtenir la vérité. Mais elles vont servir d'excuses pour renforcer la censure sur Twitter, pour utiliser la vidéosurveillance, comme l'a dit le Premier ministre, même pour empêcher les gens de monter dans les trains. Si les autorités ne sont pas d'accord avec votre point de vue, que se passera-t-il? Vous avez publié sur Twitter quelque chose que le gouvernement n'aime pas, alors vous ne pouvez pas monter dans un train. C'est pire que l'Union soviétique. Cela ressemble aux tactiques du Parti communiste chinois. Le gouvernement s'est déjà engagé à durcir les lois sur les discours haineux. Il a interrompu la mise en œuvre de la loi sur la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur, conçue pour empêcher les professeurs de perdre leur emploi pour avoir dit des choses impopulaires. Cette loi a été adoptée avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, donc le gouvernement essaie de l'annuler. Ils ont promis de nouvelles lois contre l'islamophobie qui vont rendre illégale toute critique de l'islam, toute discussion sur les problèmes plus larges liés à l'intégration de l'islam dans la société, à la violence des communautés. Cela interdirait également de discuter du fléau de viol, à savoir les groupes d'hommes islamiques qui violent des femmes britanniques, comme nous l'avons clairement vu à Rotherham. Mais cette loi étoufferait toutes ces discussions. Dans un article publié par Spiked, on lit « Starmer appartient à une espèce de politicien qui considère instinctivement que la dissidence est dangereuse et que les citoyens ont besoin d'être surveillés et gérés. J'ose dire que nous pouvons nous attendre à davantage d'autoritarisme libéral de la part de cet avocat devenu procureur en chef et technocrate en chef. C'est dans son ADN. » L'immigration est donc en train de devenir une double malédiction pour le Royaume-Uni. Elle entraîne des défis et maintenant elle sert de prétexte pour sévir sur tout le pays. Nous verrons bientôt ce que dit la Bible à ce sujet. Cette situation a été prophétisée dans le détail. Mais d'abord, j'aimerais jeter un coup d'œil sur la crise des migrants dans quelques autres pays, car cela révèle des éléments clés de cette histoire. Au cours des dernières années, le Canada a connu un niveau d'immigration absolument stupéfiant. Pour nous aider à comprendre ce qui se passe, l'ampleur de ce qui se passe et comment cela modifie la société canadienne dans son ensemble, je me retrouve avec Abraham Blondeau. Bonjour Abraham et merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous donner une idée de ce qui se passe au Canada en matière d'immigration ?
Bonjour et merci de m'avoir invité sur cette émission. Comme vous l'avez dit, au cours des dernières années, le Canada a connu une immigration record. Ce qui rend le cas du Canada intéressant, c'est qu'il n'est pas vraiment facile d'accéder à ce pays. Nous partageons bien sûr une longue frontière avec les États-Unis, mais d'habitude, les gens sortent du Canada pour entrer aux États-Unis. En règle générale, les gens se dirigent vers les États-Unis. Donc, pour atteindre le niveau d'immigration actuel, il doit exister une stratégie délibérée visant à faire venir des migrants du monde entier. Le Canada a toujours été une nation composée de différents peuples. On nous appelle la nation du Canada, mais nous sommes en réalité trois nations en une. Il y a le Canada anglophone, le Canada francophone et les peuples autochtones. Ils ont tous des niveaux de souveraineté différents. Il est important de comprendre cela, car on n'a jamais voulu que le Canada devienne un pays homogène. Nous avons toujours été des peuples distincts qui vivent ensemble. Ainsi, lorsque l'immigration a commencé, l'on ne s'est pas attendu à intégrer les gens. Le multiculturalisme a donc été officialisé en 1971 par Pierre Elliott Trudeau, et cette tendance a pris de l'ampleur avec son fils Justin Trudeau. Nous avons donc des chiffres assez étonnants. Permettez-moi de vous brosser un tableau à l'aide de quelques chiffres. Au cours du premier mandat de Justin Trudeau, c'est-à-dire entre 2015 et 2016, un peu plus de 300 000 immigrés sont venus dans notre pays. Ce chiffre est resté relativement stable jusqu'en 2021, où nous en avons accueilli près de 500 000. Enfin, au cours du dernier trimestre de 2023, plus de 400 000 immigrés sont venus s'installer dans le pays, alors que la population du pays n'est que de 36 millions d'habitants. C'est donc un nombre stupéfiant d'immigrés qui débarquent dans le pays, et cela a un impact sur la démographie et la population partout. L'autre grand sujet d'actualité au Canada est la crise du logement, notamment les prix d'immobilier. Au Canada, il y a actuellement environ 2,5 millions de personnes qui sont des résidents non permanents. Il s'agit donc de personnes qui disposent de divers types de visas. Cela représente environ 6% de la population totale du pays. Mais si vous faites un zoom arrière, vous verrez qu'environ 23% de la population canadienne est composée d'immigrants et de résidents permanents, c'est-à-dire des non-citoyens. C'est un quart du pays. Ces gens ne sont pas réellement citoyens du pays. Et cela a un impact énorme sur le Canada, non seulement sur les prix du marché immobilier, mais aussi sur la culture. À mesure que ces immigrés arrivent dans le pays, des petites communautés de diverses nations se construisent au sein de nos villes, surtout à Vancouver, à Toronto, à Montréal et à Halifax. Et cela modifie définitivement la démographie électorale et économique, ce qui a eu un effet profond sur le pays.
Alors, chaque année, le Canada fait venir plus d'1% de sa population, ce que je trouve tout simplement étonnant. S'il s'agissait des États-Unis, avec un pourcentage similaire, on parlerait alors de 4 ou 5 millions d'immigrants rien que par voie légale. Aux États-Unis, environ 1 million de personnes deviennent citoyens chaque année. Alors, par habitant, le Canada a un taux d'immigration plus élevé que celui des États-Unis. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il est difficile de parler de crise migratoire au Canada, parce qu'il ne s'agit pas d'habitants du Dakota du Nord qui fuient et traversent la frontière canadienne pour échapper à une guerre civile. Il ne s'agit pas d'une situation inévitable. c'est que le gouvernement fait entrer délibérément un nombre insoutenable de personnes dans le pays, ce qui est assez stupéfiant.
Tout à fait. Souvent sur la trompette, nous parlons de chaos à dessein lorsqu'il est question des mesures prises par la gauche radicale. C'est donc un parfait exemple de cela, car que ces gens veulent venir au Canada ou non, il n'y a aucune voie terrestre pour rejoindre la frontière. Alors, pour que nous ayons un tel afflux de migrants, il faut que le gouvernement fédéral organise les vols, les programmes de visa, même la main-d'œuvre des fonctionnaires publics. Toutes ces choses doivent être organisées au bon moment. Il s'agit alors d'une démarche planifiée.
C'est pourquoi je pense qu'il vaut la peine d'inclure le Canada dans cette discussion, bien que nous ayons parlé du Royaume-Uni, et je vais bientôt parler de l'Allemagne avec Josué. Dans ces deux pays, je pense que l'on considère souvent tout ça comme un accident, une crise, ou au pire, un gouvernement qui échappe à tout contrôle. Et il y a des éléments qui vont dans ce sens. Je pense que le Canada est un cas notable, car au moins un aspect de cette crise est le résultat d'un choix délibéré d'un gouvernement qui souhaite faire venir plus de migrants dans ce pays. C'est la même chose au Royaume-Uni. Le pays a repris le contrôle de ses frontières avec le Brexit, mais la crise des migrants, avec leurs embarcations de fortune qui traversent la Manche, persiste sur notre frontière sud. Au Royaume-Uni, nous avons atteint des niveaux records même maintenant que nous avons repris le contrôle de nos frontières, car les gouvernements profitent de cette autorité pour ne pas réduire l'immigration comme les électeurs l'ont réclamé à chaque élection. Au lieu de cela, ils font venir encore plus de migrants.
C'est tout à fait exact. Et je pense que la question naturelle que tout le monde se pose est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière cette crise délibérée ? Il est difficile de connaître toutes les raisons. Certaines sont idéologiques, ils croient trop vraiment que l'immigration est la voie à suivre, et beaucoup d'entre eux croient que la culture hétérogène du Canada est destinée à rester.
Je pense que c'est en grande partie dû au fait que ces migrants votent pour la gauche, non ? Je pense que c'est au moins une partie de la raison, n'est-ce pas ?
Ah oui, c'est exactement ce dont je voulais discuter. J'ai récemment assisté à une cérémonie de citoyenneté. Et comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, tout était conçu pour présenter la gauche sous un jour favorable. Toutes ces personnes auront bientôt le droit de vote, donc. Toutes les vidéos, tous les discours, les interactions avec le maire et le juge, et ainsi de suite, a été conçu pour inciter les gens à soutenir Justin Trudeau. Et lui, il encourage bien sûr ses citoyens d'aller voter et d'inviter davantage d'amis et de membres de leur famille dans le pays. Tout a donc été soigneusement conçu à chaque étape. La dernière vidéo que les nouveaux citoyens doivent regarder. C'est une vidéo du Premier ministre, qui dit en substance « Souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous du jour où vous êtes devenu Canadien. » J'avais l'impression qu'il allait dire « Souvenez-vous du jour où vous êtes devenu un électeur libéral. » Il n'a pas prononcé ces mots, mais c'est essentiellement là ce qui se passe. Alors, considérez pendant un instant l'échiquier politique et la cote de popularité de Trudeau. Historiquement bas. Selon les sondages, il n'a aucune chance d'être réélu. Mais si vous accueillez 500 000 nouveaux résidents permanents chaque année et qu'une bonne partie d'entre eux deviennent citoyens chaque année, vous augmentez vos chances de créer des électeurs dans ces districts clés du Canada, ce qui permettra de remporter une nouvelle élection.
Et c'est la même chose ici. Ma femme est originaire du Canada. Elle a suivi la procédure d'obtention de la nationalité britannique. Le test que vous devez passer pour cela est essentiellement un test sur comment demander des prestations. Il s'agit avant tout de mettre tout nouveau migrant sur la voie de devenir essentiellement un client de l'élite gauchiste. Car ces migrants reçoivent l'argent du gouvernement et, par conséquent, voteront toujours pour le parti de gauche qui lui donne plus d'argent. Alors Abraham, merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui sur cette émission.
Merci pour m'avoir invité.
Bien sûr, les pays anglophones ne sont pas les seuls à être confrontés à des problèmes de migration. En Allemagne, il s'agit de l'une des plus grandes histoires de ces 10 dernières années environ, qui a entraîné des changements extrêmement signifiants au sein du gouvernement et de la société allemand. Pour en parler aujourd'hui, je vais accueillir notre correspondant allemand, Josué Michel. Cette histoire, à savoir la migration, n'est pas nouvelle. Elle a également fait la une cette semaine en Allemagne, à la fois en termes de problèmes de migration et de solutions potentielles. Peut-être que nous puissions commencer en parlant de cela ?
Cette question a fait couler beaucoup d'encre cette semaine en Allemagne. Je ne pense pas que cela ait fait la une des journaux internationaux. La semaine dernière, un Syrien a commis une attaque terroriste au couteau à Stuttgart, en Allemagne. La presse a titré que ce jeune homme de 17 ans avait déjà commis 34 délits, alors qu'il vient d'une famille qui a commis 110 délits. Tout à l'heure, un tribunal a décidé que la situation en Syrie était telle qu'il y avait toujours une guerre civile en cours, mais qu'il n'était pas aussi dangereux qu'avant, laissant entendre que certains de ces migrants puissent rentrer chez eux. Cela a donc suscité un grand débat. Depuis 2015 ou 2016, des centaines de milliers de Syriens sont venus chercher refuge en Allemagne. Et maintenant, il est possible que beaucoup d'entre eux retournent en Syrie.
Tout comme c'est le cas pour le Royaume-Uni, ce sujet est d'actualité, mais il y a des problèmes à long et des causes profondes qui remontent à des décennies. Peut-être pouvons-nous parler de certains des aspects plus généraux de la situation en Allemagne qui ont mené à cette situation.
Bien sûr. L'Allemagne a une histoire de migration. À un moment donné, de nombreuses personnes ont quitté l'Allemagne en raison des guerres ou d'autres événements. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de migrations vers les États-Unis. Mais après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux migrants sont revenus. Et beaucoup d'Allemands sont revenus d'Europe de l'Est par la suite. Ils avaient alors besoin de travailleurs. Certains venaient d'Europe, mais beaucoup venaient aussi de Turquie. Un accord de travail a été conclu avec la Turquie. C'est ce qui a déclenché le premier véritable défi culturel lié à la migration.
Puis, en 2015, le phénomène a vraiment explosé. C'est à ce moment-là que tout s'est effondré en Syrie. Les migrants ont commencé à arriver en Europe par voie terrestre, et il y a eu cette fameuse déclaration d'Angela Merkel qui a dit « Nous pouvons le faire ». Ou quelque chose de ce genre. Nous allons nous occuper de tous ces migrants syriens. C'est ainsi qu'est né le parti Alternative für Deutschland en tant que mouvement de masse majeur. Il existait déjà auparavant, mais il s'agissait en quelque sorte de geeks, d'économistes allemands qui n'étaient pas d'accord avec certains aspects dont la Banque Centrale Européenne gérait l'économie. Mais cette évolution a transformé le parti. Et, avec la crise financière de 2008, cela a posé le fondement du monde politique allemand que nous connaissons aujourd'hui.
En effet, cette crise de migrants a transformé l'Allemagne comme aucun autre événement dans l'histoire récente. Sur la couverture de notre revue figurait le 11 septembre allemand, en raison d'un attentat qui avait eu lieu. Cette crise a transformé l'Allemagne et l'essor de l'extrême droite est devenu un mouvement important. Je me souviens qu'en 2015 et 2016, j'ai parcouru beaucoup de ces articles où l'on voyait des mouvements politiques attaquer des centres de réfugiés un peu partout. Le terrorisme était un problème majeur, et c'était similaire à ce qui s'est passé après la réunification de l'Allemagne dans les années 1990. Nous avons assisté à quelque chose de très similaire à l'époque.
Et nous devrions également évoquer certaines statistiques, non ? Il y avait 1 ou 2 millions qui sont débarqués après la crise syrienne, n'est-ce pas ?
Effectivement. Il y avait 1 million en provenance de Syrie, mais il y avait aussi des migrants en provenance d'autres pays comme l'Afghanistan et d'autres régions du Moyen-Orient qui ont connu de l'instabilité à un moment donné.
À mon avis, je n'avais pas vraiment pris conscience de la gravité de ces évolutions en Allemagne au début. Il y a quelques années, j'ai voyagé dans le sud de l'Allemagne, et cela m'a fait comprendre à quel point la société allemande est encore basée sur la confiance mutuelle, contrairement au Royaume-Uni et à l'Amérique. Cela existait il y a 50 ou 60 ans, et existe peut-être toujours dans certaines régions de l'Amérique rurale, par exemple, mais c'est encore la norme en Allemagne aujourd'hui. Je me souviens que je prenais l'avion pour Zurich. Je traversais le sud de l'Allemagne dans le train et en voiture. Lorsqu'on monte dans le train, il n'y a pas de contrôle à franchir comme on en voit partout à Londres et à Paris, où il y a d'énormes barrières qui empêchent de grimper, car les gens ont même essayé des trucs pareils. Par contre, en Allemagne, personne n'a contrôlé mon ticket. Tout était basé sur l'honnêteté. Je sais qu'il y a parfois des agents qui contrôlent tes tickets, mais je ne pense pas que vous puissiez vous en sortir avec ce système au Royaume-Uni, en France ou dans beaucoup d'autres pays. Puis je suis arrivé à l'hôtel. J'ai séjourné à plusieurs hôtels différents, et dans chacun, il y avait une sorte de salle avec un réfrigérateur rempli de boissons et, dans certains cas, juste une boîte en plastique sur la table. L'idée était de se servir d'un verre de coca, d'une boisson gazeuse ou d'une bouteille de vin et il y avait une liste de prix. vous mettez l'argent dans le coffre. Il n'y avait personne pour vérifier. Il n'y avait pas de sécurité pour s'assurer que vous ne sortiez pas l'argent de la boîte. Mais vous pouviez gérer un hôtel de cette manière. C'est ainsi que les gens vivent dans cette société. Mais dès qu'un million de migrants viennent de Syrie, beaucoup de gens ne suivent pas ces règles. Nous ne disposons pas de toutes les statistiques concernant le taux de vol dans ce scénario précis. Mais on a quand même un afflux important de gens qui ne respectent pas ces règles. On assiste alors à une explosion. C'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne depuis 2015 et 2016. Le principe d'honnêteté ne fonctionnait plus, ce qui a eu des répercussions considérables.
Mais aussi des répercussions financières, parce qu'il faut loger tous ces réfugiés. Il faut leur donner de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Et s'ils trouvent un emploi, l'autre question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'ils prennent la place d'un citoyen allemand qui a besoin d'un emploi ? Toutes ces questions ont donc suscité de vifs débats à l'époque. Beaucoup d'Allemands ont bien reconnu que la Syrie s'était enlisée dans une grave crise et voulaient donc aider ces gens.
La difficulté, c'est qu'il ne faut qu'un petit groupe de gens pour que les problèmes commencent. Et c'est devenu un problème de plusieurs façons. Nous avons déjà évoqué les attaques terroristes, par exemple le 11 septembre d'Allemagne, ces tueries comme ce qui s'est passé au marché de Noël de Berlin. On a assisté à des attaques à la voiture Bélier et à l'arme blanche. Puis il y a le fait que beaucoup de ces migrants sont de jeunes hommes musulmans. Et on a assisté à une vague d'histoires de comportements inacceptables, pour le dire poliment, envers les femmes allemandes. Par exemple, en 2015 à Cologne, il y a eu une agression sexuelle de masse lors du Saint-Sylvestre. Les Allemands étaient en train de faire la fête et je n'essaie pas de nier l'immoralité de la façon dont certains s'habillaient. Mais les migrants ont commis des attouchements sur les femmes. L'été dernier, il y avait un tollé parce que les piscines publiques ont été fermées. Il y avait tellement d'incidents d'agressions sexuelles commises par migrants sur les femmes que les employés ne voulaient plus travailler.
En fait, je suis récemment allé voir le centre de natation où j'ai grandi. Là, j'ai vu un panneau en arabe disant aux immigrés de ne pas toucher les femmes. C'était un moment hallucinant. Mais apparemment, ces panneaux sont maintenant partout.
Alors, il se comprend pourquoi cela suscite beaucoup d'indignation. Et cela transforme l'Allemagne de manière tout à fait fondamentale. Nous assistons à un changement d'attitude à l'égard des migrants musulmans. Mais il y a d'autres changements également.
Une chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'Allemagne a vraiment besoin de trouver une façon de faire face à ce problème. Et il y a une façon principale à le faire, c'est d'aller au Moyen-Orient. Parfois l'on parle de s'attaquer aux causes de la crise des réfugiés. Cela signifie conclure de nouveaux accords. L'un d'entre eux, en 2016, a été conclu avec la Turquie. L'Allemagne a dit à la Turquie d'arrêter l'afflux de migrants, en les empêchant de traverser le pays. Alors, l'Allemagne a fourni l'argent nécessaire pour construire des camps en Turquie et pour subvenir aux besoins des réfugiés. Aujourd'hui, on commence à parler d'un accord similaire avec la Syrie. Et nous assistons à la même chose avec plusieurs pays différents. On leur offre un soutien économique, on leur propose d'améliorer les relations diplomatiques, et enfin, on forme une alliance permettant de renvoyer ces migrants dans leur pays d'origine.
Je viens de voir un article selon lequel l'UE aurait conclu un accord d'1 milliard d'euros avec le Liban pour empêcher d'autres réfugiés d'arriver à Chypre, qui appartient à l'UE. Mais je crois que Giorgia Meloni, la première ministre italienne, parle déjà d'une relation encore plus étroite avec le Liban, afin de pouvoir y envoyer des migrants. L'Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et Malte, ces pays-là sont moins touchés par les migrants syriens. C'est plutôt un cas de migrants nord-africains. Cela a conduit nombre de ces pays à s'impliquer dans la guerre civile libyenne. Cela conduit donc à un engagement européen au Moyen-Orient beaucoup plus urgent que par le passé. Mais il y a aussi des changements culturels plus fondamentaux que nous observons en Allemagne par la suite de ces migrations.
On a toujours parlé en Allemagne d'une culture directrice. Qui sommes-nous en tant qu'Allemands ? Les Allemands ont eu du mal à s'entendre sur cela après la Seconde Guerre mondiale. Ils se disaient « Nous avons une histoire de guerre et nous venons juste de sortir d'une guerre brutale. Qui sommes-nous en tant qu'Allemands ?» C'est un sujet incontournable qu'il faut aborder à un moment donné. Mais si l'on fait venir des migrants et on leur dit qu'il doit adopter notre culture, il faut également savoir répondre à la question suivante. Quelle est notre culture ? C'est alors qu'un mouvement a commencé pour retrouver nos racines historiques, et beaucoup ont fait remarquer que chaque ville d'Allemagne a une église. Il est évident que le christianisme est notre histoire. J'ai d'ailleurs ici une citation d'un ancien ministre allemand de la Défense. Il est catholique et n'a pas caché son point de vue à ce sujet. Dans un discours de 2017, il a déclaré, et je cite, « Si nous ne sommes pas disposés à aimer notre culture, d'autres peuples finiront par définir notre culture, et notre objectif ne peut pas être de laisser à d'autres ce qui s'est développé au fil des siècles et qui se voit dans les tours de l'Église, dans la culture des clubs, à savoir une société chrétienne, juive, occidentale. On ne peut pas laisser tout ça à ceux qui viennent de débarquer chez nous. Nous avons donc assisté à un mouvement pour renforcer cette culture. Et l'année suivante, l'Union européenne a organisé une année du patrimoine culturel et a parrainé des événements dans toute l'Europe auxquels des millions de personnes ont participé pour attirer l'attention sur cette histoire. Je me souviens d'un événement auquel 70 000 personnes ont participé, tenu à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Cette cathédrale a été établie par Charlemagne, qui a unifié l'Europe pour la première fois grâce à la religion catholique. Il n'y avait qu'une seule religion à laquelle tous pouvaient se rallier. Donc, cela a permis à divers groupes et à diverses croyances religieuses de se réunir sous une même autorité. Et plus tard, c'est ce même élément qui a vraiment uni le peuple allemand et toute l'Europe. Et c'est aussi le fondement de l'Union européenne, bien que les gens ne soient pas tout à fait disposés à l'accepter ouvertement.
Ce qui me fascine en tout ça, c'est comment la crise des migrants a poussé l'Europe à devenir plus chrétienne. Et je ne dis pas cela dans le sens d'assister à la messe, mais plutôt que cette crise a fait de la culture une question politique. Je pense que c'était en Bavière, en 2015, sous la direction de Markus Söder, où l'on a exigé que la croix soit affichée dans tous les bâtiments publics. La France a multiplié les mesures de répression contre le port de l'abaya et d'autres voiles islamiques. Donc, en quelque sorte, ils font la promotion des symboles chrétiens tout en interdisant les symboles islamiques. Quelle est la différence culturelle entre les migrants qui débarquent en Europe et ceux qui vivent sur le continent depuis longtemps ? La réponse la plus évidente, c'est le patrimoine chrétien. Et je pense que c'est ce qui conduit à la christianisation de l'Allemagne. C'est ce qui pousse le christianisme à jouer un rôle plus public en France, qui est censé être laïque. Généralement, en France, il y a une différence claire entre l'Église et l'État. C'est un sujet qui mérite peut-être son propre épisode. En tout cas, la promotion des symboles chrétiens en dit long sur la situation. Nous avons commencé cette émission en parlant de l'immigration au Royaume-Uni et bien sûr de l'explosion des émeutes. Les dirigeants tentent de nier l'existence d'un problème lié aux migrants et affirment qu'il s'agit uniquement d'un problème d'extrême droite. En ce qui concerne l'Allemagne, nous prévoyons qu'elle prendra une direction un peu différente. Comme nous l'avons déjà dit, la crise des migrants pousse l'Allemagne à s'impliquer davantage au Moyen-Orient, à favoriser une renaissance culturelle chrétienne et même à désirer un dirigeant fort qui peut gérer certaines des retombées, comme la délinquance qui accompagne certains de ces migrants. Tout cela est prédit dans la Bible, et la prophétie biblique nous apprend que ce que nous voyons en Europe, avec la crise des migrants par exemple, poussera l'Europe dans une direction différente par rapport au Royaume-Uni. Nous commençons déjà à voir cela se produire, mais la Bible nous indique ce à quoi il faut attendre dans ces deux régions.
Tout à fait. Nous sommes guidés dans nos analyses, c'est par la prophétie biblique, parce que sinon il est impossible de vraiment comprendre ce qui se passe. L'Allemagne subit diverses pressions. Beaucoup d'Allemands me disent régulièrement que le pays s'enfonce rapidement dans une crise économique. Il y a aussi la crise des migrants. Alors, ils ne voient pas d'avenir pour l'Allemagne. Mais la Bible décrit exactement ce que nous voyons se produire en Allemagne. Par exemple, le fait qu'une importante population turque vit en Allemagne signifie que Berlin a une relation étroite avec Ankara. Les gens voyagent entre les deux pays, et les deux pays ont établi des liens culturels, commerciaux, linguistique, et ainsi de suite. Et nous savons, d'après une prophétie précise dans le psaume 83, que la Turquie se rangera en fait du côté de l'Allemagne. Les gens du monde entier semblent en mesure de constater déjà que la migration a rapproché ces deux pays. Il y a parfois des disputes en raison de différences culturelles. mais ces nations voient également des points communs et des objectifs partagés. Récemment, nous avons vu quelque chose de similaire se produire avec les Syriens. Il y a des millions de migrants syriens en Allemagne. Beaucoup d'entre eux ont appris l'allemand. Ils ont acquis diverses compétences professionnelles. Et maintenant, on parle de mettre sur pied un programme les permettant à revenir en Syrie. Ils conserveront alors un lien avec l'Allemagne, ainsi que leurs compétences nouvellement apprises. Mais la Syrie est un autre pays qui, selon la prophétie, se rangera du côté de l'Allemagne. C'est donc à travers ce prisme que nous analysons ces évolutions. Mais il y a une autre prophétie qui nous donne une perspective différente, dans laquelle il est question d'une réponse plus agressive de la part de l'Europe. Cette dernière cherchera à retrouver ses racines culturelles et finira par affronter l'islam radical et les causes terroristes. Comme l'a souvent souligné notre rédacteur en chef, Gérald Fleury, le principal sponsor du terrorisme, est l'Iran. Et la Bible a spécifiquement prophétisé que l'Allemagne affronterait l'Iran au Proche-Orient. L'une des raisons pour cela sera l'impossibilité de continuer à loger tous ces réfugiés, bien que beaucoup d'entre eux fuient le terrorisme. Il y a aussi d'autres causes, mais l'afflux permanent de migrants n'aide pas la situation. Et récemment, l'Iran a fait des provocations contre l'Allemagne dans la mer Rouge, en menaçant le commerce. Et l'Allemagne est aussi un allié déclaré d'Israël en ce moment. Elle s'est dit contre ceux qui menacent Israël et a déclaré qu'elle se tient aux côtés d'Israël. Nous voyons donc de nombreuses indications que l'Allemagne est sur le point d'affronter l'Iran, et la crise des réfugiés donnera à l'Allemagne une raison supplémentaire de le faire. Alors, l'Allemagne réagira très différemment, bien qu'elle connaisse certains des mêmes problèmes que le Royaume-Uni. Selon la prophétie, l'Allemagne réagira de façon très différente, et nous pouvons déjà constater cela dans les actualités. C'est exactement ce que l'Allemagne est en train de faire.
Merci beaucoup, Josué. Nous allons prendre une petite pause, mais restez avec nous, car nous allons examiner un peu plus en détail les raisons pour lesquelles ces pays suivent deux voies tellement différentes. Enfin, nous verrons où nous mène cette crise migratoire. Je voudrais conclure en parlant d'un message très spécifique de la Bible qui s'adresse au Royaume-Uni, au Canada, à l'Australie et d'autres anciennes colonies britanniques. Lors de la dernière émission, nous avons parlé un peu du livre de Herbert Armstrong, Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Ce livre est à la base d'une grande partie de ce que nous discutons dans cette émission. Ce livre décrypte la prophétie biblique. Monsieur Armstrong montre dans ce livre que le Royaume-Uni descend d'Éphraïm, le fils de Joseph. Dans la Genèse, surtout dans les chapitres 48 et 49, il est question d'Éphraïm comme puissance colonisatrice, une multitude de nations, selon Genèse 48, verset 19. Et c'est exactement ce que nous avons vu par le passé. Le livre d'Osée évoque ce nom, Éphraïm, à 37 reprises. C'est donc un livre très pertinent, compte tenu de ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni et dans ses pays apparentés. Ce livre révèle pourquoi la crise migratoire au Royaume-Uni prend une direction tellement différente par rapport à l'Allemagne. Il y a des similitudes entre ces deux pays en ce qui concerne le problème et aussi avec leur réaction, mais en fin de compte, ces deux nations connaîtront deux issues distinctes. Nous allons donc jeter un coup d'œil au livre d'Osée. Nous verrons ce qu'il nous apprend sur la crise des migrants, sur la direction que prend l'Angleterre, et enfin, nous verrons l'amour dont Dieu fait preuve même alors que le monde subit cette crise de migrants. Je vais commencer en lisant Osée chapitre 13, verset 9. « Ô Israël, tu as entraîné ta propre ruine. Nous parlerons davantage de ce verset plus tard. Mais ici, nous voyons un thème. Israël entraîne sa propre chute. Ce thème persiste dans tout le livre d'Osée. Dans Osée 8, verset 7, par exemple, on lit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Dans le livre d'Osée et dans la prophétie biblique en général, c'est une question de cause à effet. Le message clé d'Osée est que le Royaume-Uni et toutes ses autres nations font des choses qui entraînent des problèmes et des malédictions. Alors, lisons le verset 7. « Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai, comme une ourse à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces. » Y a-t-il une contradiction ici? Dieu dit qu'Israël a entraîné sa propre ruine, mais dans les versets précédents, il dit qu'il dévorera Éphraïm comme un lion. Eh bien, Il n'y a pas de contradiction, mais cela nous dit une vérité importante. Nous nous détruisons nous-mêmes, mais Dieu ajoute également des malédictions et il entraîne davantage de destruction. C'est pourquoi la crise au Royaume-Uni prend une direction très différente de celle de l'Allemagne. Il y a une véritable crise des migrants en Allemagne. C'est un vrai problème. L'Allemagne vivra des temps assez difficiles en raison de cela. Mais, en fin de compte, elle en sortira plus forte, et avec un dirigeant fort. Dieu est en train de renforcer ce pays. Mais dans le cas du Royaume-Uni, Dieu dit à plusieurs reprises dans Ézéchiel et Jérémie qu'il est contre eux. Donc, la crise des migrants et d'autres malédictions s'aggraveront à long terme. La prophétie biblique indique qu'aux États-Unis, par exemple, Dieu apportera un soulagement temporaire à la nation afin que le message de Dieu puisse être diffusé. Il est probable que cela s'applique également au Royaume-Uni. Mais en fin de compte, la nation est en train de sombrer. Donc, à bien des égards, le livre d'Osée parle de cause à l'effet, c'est-à-dire la manière dont nous sommes à l'origine de nos propres difficultés et la raison pour laquelle un Dieu aimant ajoute des malédictions supplémentaires. Ce livre a beaucoup à dire sur l'immoralité personnelle. Tout commence lorsqu'une nation oublie Dieu. Nous le voyons dans Osée chapitre 2, verset 10. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Nous avions toutes ces richesses, mais nous n'avons pas reconnu la source de ces richesses et bénédictions. Pendant si longtemps, le Royaume-Uni était la nation la plus prospère au monde. Mais la nation n'a pas reconnu Dieu comme source de tout cela, et elle a fini par tout gaspiller en poursuivant des buts inutiles. Alors, Dieu a supprimé ses bénédictions. Puis, dans le chapitre 4 du livre d'Osée, il est question de diverses idoles, c'est-à-dire les choses que la nation met à la place de Dieu, et les buts matérialistes qu'elle poursuit dans l'espoir de trouver une satisfaction. Et en fin de compte, c'est cela que la nation vénère. Lisons maintenant Osée 4, verset 2, où nous trouvons la perspective de Dieu sur la société britannique. Il dit « Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » Je pense qu'il s'agit là d'un point important à souligner. Lorsqu'on consulte certaines informations en ligne sur les migrants ou lorsqu'on écoute les médias traditionnels, on a l'impression que la migration est le péché originel de la société, ou que l'immigration est à l'origine de tous les autres problèmes. Or, ce n'est pas le cas. Bien sûr que la migration incontrôlée pose des problèmes. C'est en effet une malédiction. Le livre d'Osée en parle également. Mais certains de ces récits peuvent vous donner l'impression que sans migration incontrôlée, nous vivrions dans un paradis. Les gens seraient honorables et honnêtes et que les villes seraient sûres. Ce n'est pas le cas. Bien sûr que la situation s'améliorait à certains égards. Or, considérez comment Dieu décrit la société britannique. Ils jurent, ils mentent, ils tuent, ils commettent des vols et des adultères. Nous avons vu cela. Même dans les récentes émeutes, nous voyons sur les images qu'il ne s'agit pas seulement de migrants qui cassent des vitres et qui commettent des vols. Il y en a certainement. Mais il y a beaucoup d'autres qui mentent, qui volent, qui trichent pour se faire avancer, et ainsi de suite. Pensons par exemple à ce dont on a parlé lors de l'ouverture des JO de Paris. Ce ne sont pas les migrants qui popularisent ces pratiques sexuelles immorales au Royaume-Uni. Ce ne sont pas eux qui s'efforcent d'imposer le mouvement LGBT à nos écoliers. Cela ne vient pas d'eux. Il est clair que toute la population a ses propres problèmes. Nos familles s'effondrent. Et cela a pour résultat que nous sacrifions essentiellement nos enfants. Nous sacrifions la génération suivante. Parce que nous ne donnons pas une bonne éducation à nos enfants. C'est ce que dit Osée 4, verset 14. Donc, l'immigration n'est pas la seule source de tous les maux dans notre société. À bien des égards, ce n'est qu'un symptôme de la maladie sociétale. Par exemple, il y a un niveau record de jeunes au chômage. Ce n'est pas en raison d'un taux élevé de chômage en général. C'est plutôt dû à une mauvaise santé à long terme. Au Royaume-Uni, un demi-million d'adultes de moins de 35 ans ne travaillent pas en raison d'une maladie de longue durée. Et un tiers d'entre eux reçoivent des allocations du gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas travailler à cause de leur santé mentale. Dans plusieurs villes au nord d'Angleterre, un habitant sur quatre en âge de travailler est, en fait, au chômage. Nous sommes confrontés à une crise de la santé à long terme dans ce pays. Le gouvernement a réagi à cette crise en encourageant l'immigration. Il a raisonné que si toutes les allocations vont aux contribuables, il n'y aura plus d'argent pour soutenir l'économie, alors il faut importer plus de contribuables qui rejoindront la main-d'œuvre. Il y a certainement des points faibles de ce raisonnement qu'on peut critiquer, mais plus important encore, cela cache un problème important. Nous sommes en train d'élever une génération qui est tout simplement trop fragile pour travailler. Et la migration de masse finit par masquer notre déclin sociétal et nos problèmes au sein du foyer. C'est une crise et nous sommes en train d'élever toute une génération qui n'est pas vraiment capable de produire grand-chose. C'est aussi à cause de nos problèmes familiaux que nous n'avons pas de dirigeants forts. Osée 5, verset 1 dit que nos dirigeants sont comme des pièges et des filets tendus. Le verset 11 du chapitre 5 dit que la nation dans son ensemble est opprimée et brisée dans son jugement. Alors, nous prenons des décisions insensées. Et le résultat, c'est que notre société a l'air bien, tout en ayant de grands défauts. Le verset 12 d'Osée 5 dit « Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. » L'image ici est celle d'un vêtement rongé par les teignes. Le vêtement semble beau quand il est dans l'armoire, mais dès qu'on le sort, il tombe en lambeaux. Il est inutile quand on en a besoin. C'est le cas du Royaume-Uni aujourd'hui. Parfois, les choses ont l'air bien. Mais ce n'est que lorsque le pays est vraiment mis à l'épreuve qu'on découvre à quel point tout est fragile. Nous avons une brochure gratuite sur Osée, par le rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury. Voici ce qu'il a écrit. Les gens ne voient que la prospérité et les choses qui ont l'air attirant. Aujourd'hui, la plupart des gens passent d'un divertissement à l'autre. Même si les avant-coureurs du désastre sont visibles, nos nations refusent de reconnaître les teignes et les caries dans notre société. En raison de nos nombreux péchés, il ne reste plus grand-chose pour garder nos nations intactes. C'est notre immoralité et nos péchés généralisés qui sont à l'origine de ce problème. La crise migratoire et les émeutes auxquelles nous assistons ne sont qu'un symptôme de ce problème plus profond. Et peut-être que certains se réveillent et commencent à voir ces problèmes un peu plus clairement. Au verset 13, cela dit que le Royaume-Uni et Juda reconnaissent leurs problèmes, mais ne recherchent pas l'aide de Dieu. Au lieu de cela, ils se tournent vers la Syrie, le nom biblique pour l'Allemagne. Et dans les Anglo-Saxons, selon la prophétie, il est également question de l'identité biblique de l'Allemagne. Nous en avons un peu parlé dans l'émission de la semaine dernière. Alors, Osée mentionne spécifiquement l'immigration comme étant l'un des facteurs qui affaiblissent la société. Osée 7, verset 8 dit « Éphraïm se mêle avec les peuples, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. » Il s'agit d'une autre image similaire à celle du vêtement rongé par les teignes. Maintenant, c'est un gâteau qui n'est pas assez cuit d'un côté et brûlé de l'autre parce qu'il n'a pas été retourné. On le regarde dans le four et il a l'air délicieux, mais lorsque vous le découpez, il est tout brûlé et impossible à manger. Telle est notre société. Et Dieu dit que cela arrive parce qu'Éphraïm s'est mêlé au peuple. Ça signifie qu'il fait venir des étrangers. Cela a fragilisé notre société et elle ne résistera pas lorsqu'elle sera mise à l'épreuve. Le verset 9 dit « Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Notre société est beaucoup plus faible que nous ne le pensons. Certains s'éveillent au fait que des étrangers ont dévoré leur force. Mais quand on lit des versets comme celui-ci, on se demande si même la droite se rend compte de l'ampleur du problème. Le gouvernement ne s'en rend certainement pas compte. Il pense être fort, mais lorsque la nation sera mise à l'épreuve, elle s'effondrera. Pourquoi ? Pourquoi un Dieu d'amour permet-il ces malédictions et même les aggrave-t-il ? Pourquoi n'intervient-il pas pour nous donner de meilleurs dirigeants ou nous sauver totalement de tous ces problèmes ? Nous savons que le livre d'Osée est fiable, car cela énumère toutes ces malédictions dans le détail. Nous pouvons regarder autour de nous et voir ces malédictions se réaliser. Nous voyons à quel point ce livre décrit parfaitement notre société. Mais en ce qui concerne le Royaume-Uni, ce livre contient également certains des versets les plus positifs et les plus encourageants de la Bible. Le nom Osée signifie « salut ». C'est ce que Dieu désire pour le Royaume-Uni, pour l'Allemagne, pour le monde. Et c'est l'idée directrice de ce livre. C'est en fait la raison pour laquelle Dieu permet ses malédictions et ses souffrances. Il veut nous apporter le salut. Revenons au chapitre 5 d'Osée. Les versets 6 et 7 disent « Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Il y a certains qui cherchent Dieu sans une vraie sincérité, lorsque les choses tournent mal. Mais comme le dit le verset 7, ce n'est pas sincère. Nous avons déjà mentionné Osée 5, verset 13, qui nous apprend que lorsque le Royaume-Uni se rendra compte de ses problèmes, il se tournera vers d'autres nations pour obtenir de l'aide au lieu de se tourner vers Dieu. Et au verset 14, on voit le résultat final. « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. » Dieu amène donc une grande souffrance sur ces pays. La situation s'aggravera sensiblement. Mais regardez ensuite le verset 15. « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils savourent coupable et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Voilà l'espoir. C'est pourquoi Dieu châtie ces gens. » Lorsque la situation s'aggrave à un tel point, ces gens reviennent rapidement à Dieu. La nation se repent et change. La nation a entraîné sa propre destruction et ruine. Alors, voilà ce qu'il faut pour que notre peuple cesse d'entraîner leur propre chute. Et c'est le but de Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'il fait est motivé par l'amour. C'est ce qu'il faut pour nous empêcher de nous détruire. Osée est rempli de références à un message adressé au Royaume-Uni en ce moment même. C'est un message que le pays pourrait écouter. Le pays a la possibilité de changer. Et en fin de compte, ce message aidera les gens à se repentir. On lit au verset 9 « Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. » Il y aura beaucoup de souffrance en ce jour, mais ça poursuit. « J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. » Dieu a prophétisé qu'il ferait connaître à l'avance ce qui arriverait. Le verset 8 dit « Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. » Il y a donc un message urgent d'avertissement qui somme les gens à se repentir et à changer. Le verset 15 nous dit qu'au comble des souffrances, le Royaume-Uni entendra ce message et se tournera vers Dieu. Dans Osée 6, verset 1, nous lisons « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. » La nation se tournera donc vers Dieu et cherchera la guérison auprès de lui. Par ailleurs, le chapitre 11 de ce livre explique en détail à quel point Dieu aime Éphraïm, cette nation qu'il châtie. Revenons à notre point de départ. Osée 13, verset 9. « Ô Israël, tu as entraîné ta propre ruine, mais tu trouveras en moi ton secours. » Dieu fait tout cela pour apporter le salut à toute la nation et en fin de compte, au monde entier. Il aime toutes les nations. Il dit qu'il n'y a pas d'acception de personne avec lui. Donc, lorsqu'il décrit au chapitre 11 combien il aime Éphraïm, on doit se souvenir que Dieu aime toutes les nations. Il travaille avec elles de manière différente à différentes époques. Dieu suscite l'Assyrie biblique, ou l'Allemagne, pour châtier Israël, et c'est pourquoi il veillera à ce que leur crise migratoire les transforme en une nation forte, dont il se servira pour châtier le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais ensuite, dans le livre de Nahum, Dieu dit à la Syrie qu'il se dresse maintenant contre elle, tout comme ce qu'il dit au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il punira l'Allemagne pour la même raison qu'il punit actuellement le Royaume-Uni. Il aime toutes ses nations. Il veut amener toutes les nations à lui en fin de compte. Et c'est le résultat final. Dieu punit le Royaume-Uni en ce moment, mais Osée nous aide à replacer ce châtiment dans le contexte d'un Dieu d'amour, qui projette d'apporter le salut au monde entier. Alors, nous touchons maintenant à la fin de notre émission. Merci d'être avec nous. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à nous donner un like ou à vous abonner à la chaîne sur YouTube. Soyez les bienvenus de nous envoyer un mail. Nous avons notre propre adresse électronique, lettres@latrompette.fr. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer les livres dont nous avons parlé sur notre site web, latrompette.fr. Je vous conseille fortement. Les Anglo-Saxons, selon la prophétie, c'est tout simplement un livre fantastique pour commencer. Vous pouvez retrouver et commander des exemplaires gratuits sur notre site web. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos idées et de vos questions. Nous serons de retour vendredi. D'ici là, continuez à surveiller votre monde.